Un dragon en forme de nuage. C'est le film d'Ettore Scola que vous n'aurez malheureusement jamais l'occasion de voir sur les écrans. Ce cinéaste italien de renommée internationale nous a quittés il y a quelques années désormais. Et aujourd'hui, pour en parler, j'accueille deux personnalités du monde du cinéma italien et de l'édition, en particulier de la bande dessinée. J'ai en face de moi, et j'ai le plaisir de vous accueillir, monsieur Jean Gilli. Vous êtes un historien du cinéma et très spécialisé sur l'Italie. Bonjour Jean.
Bonjour, c'est un plaisir de venir parler de cinéma italien.
C'est un plaisir partagé, sachez-le. Et juste à côté, vous avez donc Salvatore. Bidou. Voilà. Vous êtes donc un éditeur, qui, donc, on peut citer votre maison d'édition, ça s'appelle donc Fordis Édition, d'accord. Vous avez, d'un accord commun, décidé avec la famille Scola, puisque évidemment la descendance est partie prenante de ce projet, vous avez décidé d'en faire une bande dessinée de ce film. Un dragon en forme de nuage, c'est le film qui malheureusement ne sera jamais à l'écran. Bienvenue à la radio du cinéma, et on va parler évidemment de ce réalisateur. C'était un homme extrêmement engagé, et je parle sous votre contrôle, Jean, évidemment. Avant d'être un réalisateur de cinéma, il a aussi été une plume, un scénariste, quelqu'un qui, finalement, les lettres étaient un peu son terrain de jeu.
Oui, le plus emblématique à de nombreux niveaux, quoi, y compris politiquement, quand on sait que le Parti communiste a joué un grand rôle dans les milieux culturels italiens, de l'après-guerre jusqu'à nos jours, on peut dire, et que les films qu'il tournait, il ne laissait jamais au vestiaire son engagement politique. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour lui. Il était très proche du parti. Il a même été ministre ombre de Berlinguer, et qui considérait que Scola était quelqu'un très touchant et qui, dans le fond, apportait son prestige, son idéologie, ses convictions à la gauche italienne, et que, dans le fond, la gauche italienne, elle avait été ce qu'elle a été, elle a compté comme elle a compté dans la société de ce pays, parce que les artistes, beaucoup d'artistes, et notamment les artistes des milieux du cinéma, se sont donnés à cette... ils ont été partie prenante des grands débats, notamment du débat autour du « fallait-il débaptiser ou non le Parti communiste ?» puisque vous savez qu'à un certain moment, le Parti communiste, en tant qu'appellation, s'est sabordé, a décidé qu'il fallait tourner la page, ce en quoi, à mon sens, ils ont commis une grave erreur, parce que à partir du moment où le Parti communiste, où le nom de Parti communiste a disparu, le parti s'est délité, son prestige a disparu, et son importance dans la vie politique italienne a fortement diminué.
Salvador, on va parler aussi, évidemment, d'un univers qui vous est familier, l'univers de la bande dessinée. C'est pas votre première publication sur le monde de l'Italie et le cinéma. Néanmoins, c'est quelque chose qui pèse pour vous, et je crois que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur.
Non, alors, ça me tient à cœur pour deux raisons. C'est que, surtout Scola et De Sica, qui sont mes réalisateurs un peu phares de l'Italie, Ettore Scola, je suis tombé dessus parce qu'il racontait l'histoire de ma famille. Par bride, sur certains films, il me racontait l'histoire de ma famille. Et j'ai surtout cette image d'une journée particulière, Giornata particolare, que tout le monde connaît, où on voit le début, le bal de Sophia Loren dans son appartement, en train de préparer ses enfants et son mari aller saluer l'arrivée du Führer à Rome. Et Sophia Loren, c'était tout à fait ma mère. Je veux dire, bon, Ettore Scola, c'est un peu aussi, par bride, l'histoire de ma famille. C'est ce qui m'a touché. La bande dessinée, elle a été créée, je dirais qu'elle existe grâce à Ivo Milazzo, cher ami dessinateur. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé ensemble sur 3 bandes dessinées avant celle-ci. Et un jour, il m'a envoyé donc l'album, la version italienne, qui était sortie il y a quelques années en Italie. Et je suis tombé, amoureux, déjà du style qui a été fait en aquarelle et qui est merveilleux avec des planches magnifiques muettes. Ça se passe à Paris. L'île de la Cité, c'est un libraire, donc ça ne peut que me toucher. Et en plus, ça parle de Scola, un de mes deux réalisateurs italiens favoris. Et l'histoire est vraiment touchante, parce que c'est une histoire de famille,
encore une histoire d'amour. Père,
mais oui,
une histoire d'amour. Avec une jeune fille et voilà. Qui est paraplégique, si et je me souviens bien.
C'est ça, tout à fait.
Et donc, ouais, voilà. Et donc, bon, on ne va pas spoiler l'histoire. Oui, néanmoins, forcé de constater, d'ailleurs, j'espère qu'on aura une ou deux planches à pouvoir diffuser pour accompagner le propos, pour bien montrer le talent de ce dessinateur.
Avec grand plaisir.
Et c'est vrai que on peut dire quand même que cette bande dessinée, elle est un peu une hybridation et à la fois de quelque chose de très cinégénique. Et on est un peu sur une sorte de storyboard de luxe.
Oui.
Et je trouve que le narratif est très cinégénique.
Alors, je peux juste ajouter une chose, après je te laisserai la parole, Jean. Non, mais c'est parce que là, c'est intéressant, c'est que Ivo a été vraiment touché par cette histoire.
Ouais. Ivo, donc,
le dessinateur. Voilà. Ivo Milazzo a été vraiment touché par cette histoire, et il a fait une écriture, une réécriture, une adaptation du texte, du traitement donc du film que lui a donné, remis Ettore Scola, et ça l'avait touché aussi. Parce que
ça on est en quelle année, quand ça se passe?
Il y a une dizaine d'années.
Une dizaine d'années.
Une dizaine d'années, juste avant qu'il meure, puisqu'il n'a pas vu la bande dessinée, mais il a vu les planches arriver. Et il était ravi, il dit mais j'ai rien à dire à Ivo, c'est tout à fait le film que je voulais réaliser.
On peut considérer effectivement que c'est aussi un film d'Ettore Scola, quoi. Oui, c'est presque miraculeux ce qui s'est produit.
Mais c'est
vrai qu'il y a tellement d'obstacles, difficultés, et pas seulement économiques, que l'on peut être
Mais là, c'est l'obstacle ultime. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement,
c'est l'œuvre ultime,
on lui a volé la vie. L'histoire, elle est somptueuse. Pratiquement, l'histoire de ce livre, ça aurait pu être presque une histoire d'Ettore Scola, à part entière.
Oui,
tellement le message est beau et la finalité est poétique.
Ouais. Dans le fond, il y a deux œuvres ultimes d'Ettore Scola.
Ouais.
Il y en a une qu'il a eu la force de réaliser, qui est un film consacré à l'époque où il travaillait dans une maison d'édition qui éditait une sorte de canard enchaîné, et qui a trouvé les acteurs qu'il fallait, a trouvé les éléments nécessaires pour pouvoir le tourner. Le film existe. Scola ne voulait pas le tourner, et ses amis et ses petits-enfants ont fait pression. Et le film était également, le cœur du film, c'est l'amitié entre Fellini et Scola. Comme si, dans le fond, ils se reconnaissaient mutuellement comme les deux plus grands cinéastes italiens. Moi, j'y ajouterais, de toute façon, Pasolini.
Bien sûr.
Mais c'est de là, sûrement, qu'ils sont là. Et dans le film, qui interprète Fellini jeune, qui interprète Scola jeune? Les petits-fils de Scola. Donc, ils sont sur le plateau, il les a amenés pour tourner, et ils se sont intégrés complètement à cette histoire, ce qui fait que finalement, ce film devient un des films les plus personnels que Scola ait tourné dans sa longue carrière.
On reprécise le titre de ce film.
Qu'il est étrange de s'appeler Federico, quoi, en référence à Garcia Lorca.
Alors, il y a une très jolie préface que vous avez écrite, Jean, et qui finalement présente le personnage dans tous ses engagements, etc. Finalement, il y a une dimension très pédagogique dans cette bande dessinée, et ça, c'est précieux. Et effectivement, Salvatore, à la fin, et ça, c'est un peu la signature de votre maison d'édition, à la fin de cette bande dessinée, il y a tout un... Je suis en train de dégrainer les pages en même temps que je vous parle. Après le mot « fin », vous avez en fait des très jolies photos de tournage où on aperçoit Mastroianni, etc., enfin ces acteurs fétiches. Et puis, on apprend beaucoup de choses sur le personnage qu'était Ettore Scola, sa filmo, etc. Et l'amour qu'il portait à ses acteurs, à ses actrices, ça aussi c'est quelque chose. Alors ça, c'est très commun, je trouve, aux réalisateurs italiens. Mais peut-être qu'Ettore Scola a été l'un des ambassadeurs emblématiques de cette relation avec les acteurs et les actrices.
Il n'a jamais eu la Palme d'Or, ce qu'on peut regretter.
Ça, c'est vrai.
Mais il est venu très souvent au Festival de Cannes pour y présenter des films.
Oui.
Y découvrir lui-même certains films qu'il n'avait pas pu voir. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Festival de Cannes. Je considère effectivement que c'est une grande chance. Mmh. Il est venu par amitié Et alors que cela lui demandait pas mal d'efforts.
Il parlait français, il me semble. Hein.
Il parlait assez bien français.
Oui, c'est ça. Voilà. Hein. Oui.
Pas parfaitement,
oui.
Mais c'était charmant d'ailleurs.
Oui, hein. C'est ce qui fait le charme d'un étranger quand voilà, il parle notre langue.
Je pense qu'il se débrouillait très bien en français, mais je pense qu'il y mettait quand même une petite coquetterie à ne pas être aussi parfait que possible. Oui. Oui. Parce que c'était un cinéaste italien et il revendiquait son italianité. Oui. Il revendiquait aussi son film d'être un cinéaste du Sud. Vous savez qu'en Italie, le Sud, la présence culturelle du Sud est considérable. Et Scola était né à Trevico, qui est une petite ville du Sud de Basilicate. Et c'était quelque chose auquel il était très attaché et dont, auquel il se référait volontiers.
Quoi. Ouais.
Beaucoup. Mais Scola a été un des artisans des coproductions. Et à partir de la fin des années 50, il se tourne beaucoup de films qui sont financés par les Italiens et par les Français. Et les films arrivent à se tourner parce qu'en mettant ensemble deux coproducteurs, il y a plus d'argent.
Bien sûr.
Et dans le cinéma, il ne faut pas se voiler la face, l'argent est souvent décisif. Et Scola a été une des grandes figures des coproductions. Quoi. Et avec lui, des comédiens français qu'il faisait venir en Italie pour jouer. Quoi.
Oui, donc il y a un parfait trait d'union, finalement, entre la France et l'Italie.
Absolument, absolument.
Alors, merci de me faire cette transition, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quel est le trait d'union qu'il peut y avoir entre vous, Jean, et puis vous, Salvatore, comment est-ce que cette rencontre s'est faite? Racontez-moi un petit peu.
Jean, je le connais depuis très très longtemps, par ses écrits.
Oui.
Physiquement, je l'ai découvert grâce à cette bande dessinée, par l'intermédiaire de Sylvia Scola.
Voilà, la fille des Torres Scola.
La fille des Torres Scola.
Qui est scénariste.
Qui est scénariste, oui.
Ça ne s'invente pas.
Non.
Qui était quasiment le début de la carrière de son papa.
Absolument.
Donc du coup, c'est assez drôle.
Ouais. Qui a quand même travaillé avec lui sur les 8 derniers films, co-écrit, etc.
Donc, comme on dit, elle connaît le chemin.
Oui, ben, très bien, très bien. Il suffit de la voir chez elle, dans son appartement, pour savoir qu'on est dans le
elle
cinéma.
Elle vit à Rome, non?
Oui, elle vit à Rome.
Ouais, là où a fini sa vie son père, Ettore Scola. Ouais,
hein. J'ai rencontré il y a 15 jours, et dans son appartement, c'est amusé, il y a de quoi devenir fou.
Vous nous faites saliver.
Oui, parce qu'elle vous ouvre, par exemple, elle enlève une toile de la pièce où il y a des archives, et là, vous voyez le César, vous voyez toutes les... Les trophées allemands.
Les distinctions.
C'est formidable. Un original de Fellini, enfin. Et j'en passe.
Bon.
Et j'en passe.
Donc cette rencontre, finalement.
Oui, alors. Donc Jean, je le connais par ses écrits, j'ai tous ses livres. Et donc Sylvia nous met en contact parce que je voulais absolument, pour ce livre, d'ailleurs, dans tous les ouvrages que je fais, je tiens à ce qu'il y ait un préfacier qui connaisse la matière. Et donc,
je pense que vous êtes adressé à peu près à ce qui se fait de mieux.
Voilà, et puis donc je me disais, il n'y en a qu'un, c'est Jean, comment je peux faire? Jean, Gilly, comment je peux toucher cette sommité? Et puis voilà, ça a matché tous les deux, parce qu'on a les mêmes passions, on a les mêmes...
Les mêmes origines,
oui. Et puis bon, voilà, on a échangé des tas de choses. Puis l'Italie, le cinéma, enfin bon, on reste des heures à parler.
C'est des mots où on peut largement argumenter.
Ouais, oui.
Alors, on rappelle le titre de cette bande dessinée, Un dragon en forme de nuage. Est-ce qu'on peut raconter un peu ce titre, légèrement, sans trop dévoiler, mais est-ce qu'on peut raconter ça?
On est dans une librairie de livres.
Ça, c'est le papa, donc.
Le papa, donc
voilà. Pierre.
Qui vit donc dans l'île de la Cité.
Ouais.
Et puis, donc, il y a une petite routine, qui vit vraiment dans la routine, 50 ans passés. Il a perdu son épouse il y a très longtemps. Et voilà, la vie, elle passe, et puis lui avec. Et puis, tout d'un coup, arrive... Et alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il vit, donc, il soigne sa fille.
C'est ça.
Tétraplégique, qui est
donc
à l'étage.
Qui a une grave maladie.
Voilà, suite à un accident.
Voilà.
Et on n'en dira pas plus.
C'est ça.
Et donc, voilà, il y a le rapport entre le père et la fille.
Voilà.
Et là, il faut rentrer dans l'histoire pour toute la
richesse.
Et un jour, dans la librairie, rentre une furie qui est une jeune fille merveilleuse.
On va s'arrêter là. On va reciter le nom du dessinateur, donc Ivo Milazzo, qui vraiment, par le prisme de ses aquarelles, je trouve que ça offre quelque chose de très cinégénique.
Et de son écriture, de la réécriture quand même. Ouais. C'est lui qui a travaillé sur la réécriture et l'adaptation.
Ça, c'est important de le préciser.
Oh, oui, ouais. Ça, c'est vraiment lui qui a travaillé dessus. Ouais. Il n'y a pas de scénariste. C'est l'histoire, le traitement, donc l'histoire qu'a écrit.
Originelle.
Originelle, bien sûr.
Voilà.
Et lui,
il s'est réapproprié.
Il s'est réapproprié, il a travaillé dessus pendant un mois. Ouais. Et il a touché. Mais je crois que c'est parce que l'histoire l'a touché aussi par rapport à sa famille. Donc vous voyez comme quoi il y a des liens qui se font, et l'étincelle était là, il a trouvé les mots justes qui ont ravi Scola. Et ce qu'on n'a pas dit sur Scola tout à l'heure, mais je tiens à le dire maintenant, parce qu'après j'oublierai de le dire, c'est ce qu'il y a dans ses films, il aime les gens. C'est un grand humaniste.
Bien sûr. Eh oui. Mais Jean, est-ce que dans cette bande dessinée, vous avez vu le film potentiel qu'aurait pu faire Scola?
Oui, absolument. Ouais. C'est d'ailleurs cela qui est très touchant, qu'on se dit, tiens...
C'est voilà. Un bon compliment pour votre projet.
Mais oui, moi, je suis touché, moi, mon cœur bat.
Scola avait un grand sens de l'image.
Mais oui.
Bon, les cinéastes, en général,
bien sûr,
ont un sens de l'image.
Ouais.
Il y a encore de jeunes cinéastes de très grand talent.
On peut en citer, hein, des Sorrentino...
Notamment Sorrentino.
Voilà, hein, parmi
Pietro
les contemporains. Bien sûr. Qui font l'actualité régulièrement.
Un peu plus ancien, Nanni Moretti.
Bien sûr.
Qui n'est pas dans la génération des cinéastes qui ont marqué l'histoire du cinéma italien, les plus jeunes.
Mais qui s'en sont passablement inspirés.
Mais ils s'en sont, bien entendu. Il y a une très grande continuité dans le travail de Cinecittà, et là, comme une espèce de support, comme
le socle.
Comme une mémoire aussi, hein, une mémoire de
la bibliothèque.
Moi, j'avoue que quand je vais à Cinecittà, et j'y suis allé assez souvent, y compris pour aller parfois sur des tournages,
Vous avez été privilégié, Jean.
Oui, c'est-à-dire, c'est très curieux aller sur un tournage, parce que d'un côté, on se sent un peu privilégié,
bien sûr.
Et de notre côté, moi personnellement, je me sens mal à l'aise parce qu'on est sur un plateau. On est au milieu de souvent plusieurs dizaines de personnes qui ont toutes
une fonction. En fait, vous êtes en train d'évoquer une fourmilière où finalement vous rentreriez, mais vous n'êtes pas une fourmi.
Et je n'ai pas une fourmi. Alors je regarde, et je ne peux pas partager ce qu'ils sont en train de vivre.
Oui, bien sûr.
Scola a tourné dans sa région natale, en Ciociaria, Splendor. Splendor, c'est le titre d'un cinéma, c'est le nom d'un cinéma.
Localement,
dans une petite ville. Hein, et Splendor, c'est le nom du cinéma et de la passion qui lie les gens à ce cinéma.
Bon. L'attachement.
L'attachement, ce qui est effectivement un mot beaucoup plus juste. On est arrivé avec un ami, on travaillait tous les deux au Festival du cinéma italien d'Annecy, Pierre Todeschini, et il nous a demandé, à un moment donné, le tournage, on a suivi le tournage pendant toute la journée. À midi arrivent les paniers repas.
D'accord.
Qui s'appelle Cestino en italien.
Cestino.
Cestino, au pluriel Cestini. Donc on reçoit notre panier repas et on avait à côté de nous qui mangeaient leur panier repas, Mastroianni.
Oh. Ah oui.
Hein, bon,
Mastroianni. Extraordinaire.
Il y avait Massimo Troisi qui était également là. C'était les deux protagonistes du film. Il y avait aussi Marina Vladi, mais là elle n'était pas dans cette séquence. Bon. Et. On a mangé avec eux en devisant, et Scola, à un moment donné, a repris le tournage et nous a dit, à Todeschini et moi, restez là, ne bougez pas. Donc on est dans le film.
Ah oui, vous êtes devenus des figurants comme ça.
Voilà, on est devenus des figurants.
Ah, c'est drôle.
Et si on voit
quelle belle anecdote. Hein.
Quand on voit le...
Vous vous êtes vu dans le film, du coup.
Je me suis vu dans le film, on se voit tous les deux à la terrasse. On prend le café, on a mangé le Cestino, on boit le café et on nous voit buvant le café.
Génial.
Avec Mastroianni à côté. Et je pourrais même aller plus loin dans l'anecdote. Il me demande, je le connaissais un peu à travers d'autres amis.
Vous parlez de Mastroianni.
Mastroianni, oui. Ouais. Il me demande, est-ce qu'il y a à Rome un établissement scolaire français? Parce que ma fille, j'aimerais prendre ma fille un petit peu avec moi.
Là, il parlait de Chiara ou...
Il parlait de Chiara.
Ah, d'accord.
Il me dit, j'aimerais la prendre un petit peu avec moi, qu'elle partage son temps. Est-ce qu'il y a un établissement scolaire où elle pourrait être inscrite? J'ai dit, bien sûr, il y a le lycée français de Rome, le lycée Chateaubriand. Et après, elle est venue au lycée Chateaubriand et elle a suivi 2 ou 3 ans d'études. Elle est restée 2 ou 3 ans.
Grâce à vous, finalement.
Et oui, alors je me disais, mais dans le fond, si Chiara est venue à Rome, c'est parce que son père a appris qu'il y avait une école française où il pouvait l'inscrire.
Ah, magnifique. Ouais, non, mais ça, c'est une anecdote. Et je sais, Jean, que vous en avez plein des comme ça. Ouais. Alors, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages qui consacrent le cinéma italien. D'ailleurs, vous êtes venu accompagné d'un petit manuscrit, d'un petit livre qui est l'un de vos écrits, je suppose.
Oui, qui date de 1978.
Hein. Wow, magnifique. Le cinéma italien. Voilà. Signé de Jean Gilly.
C'est un livre d'entretien avec un certain nombre de cinéastes.
Génial.
Et notamment un long entretien.
Avec Ettore Scola, je suppose.
Avec Ettore Scola.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Et dans un tome 2. Il y a des entretiens avec des comédiens. Dans le tome 1, il n'y a que des cinéastes.
Peut-être que Salvatore va faire un gros tome de ces deux petits tomes.
Mais alors,
sait-on jamais.
On peut dire ce dont on parlait tout à l'heure.
Ah, oui. On va apprendre des choses. Il y a un petit
scoop.
Ils vont nous faire un petit cadeau.
Alors, en italien, on dit un alto mare.
Un alto mare.
Comment on pourrait traduire ça?
En haute mer.
Voilà. Ah, c'est un peu en haute mer.
Non, voilà. C'est parce que ça existe, c'est là, mais ouais. Il faut le pousser.
Ah bon.
Voilà.
Alors,
et là,
on veut bien savoir. On veut bien avoir quelques informations, quelques bribes.
Eh bien, c'est un beau projet qui est en gestation, qui est quand même pas mal écrit sur des auteurs, sur des réalisateurs, etc.
Ah donc ça serait une synthèse du cinéma italien.
Oui, un panoramique.
Ah, génial.
Avec des textes sur des cinéastes, des comédiens, des scénaristes.
J'imagine qu'il y aurait quelques illustrations.
Beaucoup.
Ah ouais.
Donc là, il m'inquiète un peu parce qu'il me dit les illustrations, ça coûte très cher.
Alors, les droits d'auteur, oui, mais c'est pas grave ça.
voilà.
Écris le livre et puis moi je m'occupe du reste.
Voilà. Ah ben alors merci pour ce scoop. Oui. Donc en fait, en gros, il va y avoir une sorte de synthèse du cinéma italien dans l'année où les deux avenirs qui vont arriver.
Oui. Avril 2027.
Voilà. Magnifique, ouais. Magnifique.
Avril 2027.
Merci pour ce petit cadeau.
Mais oui, non, mais
heureux de l'apprendre.
Et puis là, comme ça, je le force à travailler.
Bon, là, attention, il y a des témoins.
On
a tous les auditeurs qui écoutent.
Je vais prendre mon engagement, bon, voilà. Je ne suis pas certain de pouvoir tenir.
Mais si.
Mais...
Bon. Jean, au-delà de ces anecdotes.
On peut dire en italien, mo ci provo.
Si, vai.
Maintenant, je vais essayer.
Ce que j'ai envie de vous demander, en fait, Jean, c'est une question un peu plus philosophique par rapport au cinéma italien en général. Par rapport à cet intérêt que vous portez au cinéma italien, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte de vous?
Moi, je me suis un peu construit à partir du cinéma italien, ouais. Depuis l'adolescence. Je cherche un peu à comprendre d'ailleurs pourquoi cet intérêt pour le cinéma italien, parce que moi, je suis de culture française. Hein, j'ai grandi dans un milieu qui parlait français. Mon père parlait français. L'italien était quasiment interdit à la maison, parce que les Italiens... n'était pas forcément très bien accueilli dans la société française.
À cette période-là, oui.
Dans cette période-là, bien sûr. Aujourd'hui, tout ça a beaucoup évolué. Mais dans cette période-là, quand moi j'étais à l'école communale, on me traitait de macaroni. Quoi.
Oui.
Le cinéma italien, j'ai dû le redécouvrir. Non, puisque je ne l'avais pas découvert. J'ai dû le découvrir progressivement en lien avec mes origines paternelles, uniquement paternelles. Enfin, du point de vue maternel, je suis... totalement français. Quoi. Mmh. Donc c'est un peu ce mélange. Il faut dire que j'étais méridional, j'étais niçois, donc l'Italie n'est pas très loin. Et donc finalement, est-ce qu'on peut dire que j'étais 100% italien? Non, mais que je sois surtout de culture méridionale, oui.
Aujourd'hui, si on avait une sorte de photographie à faire du cinéma italien versus le cinéma français, comment est-ce qu'on pourrait positionner ce cinéma? Est-ce qu'il est en train de se revendiquer à nouveau? Ou à l'inverse, en fait, on a l'impression que ce cinéma-là manque cruellement de reconnaissance, en particulier hors de ses frontières?
Bon, il y a une crise aujourd'hui dans le cinéma italien qui n'est pas j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas une crise de créativité, c'est une crise de diffusion, une crise de reconnaissance. Est-ce qu'il est dépassé de mode ?
Est-ce qu'il manque de leader créatif pour...
Il est certain que quand on a connu une période où il y avait Fellini, Antonioni, les cinéastes des auteurs de comédie, Risi, Monicelli, Comencini, Scola, quand il y avait les auteurs de films très grand public, Sergio Leone et le western, vous vous rendez compte ? Quand il y avait des créateurs, des musiciens comme Morricone. Donc, quand tous ces gens, quand cette période c'est d'une certaine manière terminée...
C'est endormi.
Bon, le relais a été difficile à assurer.
Oui.
Et n'a pas été assuré.
Il n'y a pas eu de continuité.
Un certain nombre de cinéastes ont eu la conviction que le fait d'avoir derrière soi tous ces cinéastes de renommée, de qualité exceptionnelle, n'était pas un avantage, c'était un handicap.
Oui.
Un handicap à faire les comptes avec comment peut-on prolonger le travail de gens comme Fellini, comme Antonioni, comme Pasolini. Pasolini, vous rendez compte, c'est un... Tous ceux qui ont approché Pasolini sont unanimes, laissaient une impression... Moi, j'ai fait des entretiens avec un très grand nombre de cinéastes, de comédiens, de scénaristes. Pasolini, je l'ai un peu approché, mais je n'ai jamais eu le courage de l'aborder pour faire un entretien. Tellement il m'impressionnait.
On arrive au terme de cet entretien, et évidemment, il y a une tradition à la radio du cinéma. Donc, je vais vous demander à chacun, à tous les deux, de me donner vos films préférés respectifs, vos musiques de films préférées respectives et vos répliques préférées. Salvatore, si vous êtes d'accord pour commencer, eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce film et on vous écoute.
Alors, au début, j'avais choisi un film parce que c'est le premier film sur lequel j'ai pleuré.
Oui.
Et parce que ça touche l'âme humaine.
Bien sûr.
Et en fin de compte, j'ai changé après parce qu'en l'écoutant, j'ai revécu des choses. Et c'est vrai qu'il y a Le voleur de bicyclette de De Sica.
Ah oui.
C'est un film qui m'a complètement bouleversé parce que c'est un film qui se passe après-guerre. On y voit les ruines de l'Italie que moi j'ai connues en Sardaigne, puisque je suis sarde.
D'accord.
Cette île qui était un peu complètement arriérée, entre guillemets, complètement vétuste. Et là, j'ai revu tout ça, et j'ai revu cet homme, c'était mon père, exactement, c'était lui, comme je disais tout à l'heure.
Avec votre maman dans un autre film.
Et c'est pour ça, De Sica et Torre Scola, ça me rapproche de mes parents. Et donc, je voyais cet homme qui se battait pour justement nourrir la famille. Et ce petit garçon, c'était moi.
Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, tira, tira. È meglio che te ne vai, va.
C'est un peu comme La Grande Illusion, Jean Renoir, je vois ça une fois par an. Quoi.
Alors, vous allez nous expliquer aussi pourquoi vous avez choisi cette musique de film en particulier. Ouais. On vous écoute.
Alors, parce que j'arrive à un âge où je prends le temps de certaines choses. Je prends le temps de
vous imprimer.
D'agiter, d'imprimer et tout. Et le film, justement, L'Assassin de Jesse James, par une forme de... Je ne sais plus d'ailleurs qui a fait le film, mais c'est avec Brad Pitt qui joue le rôle de Jesse James et Queen qui joue le rôle de Ford. La musique de Nick Cave, elle est extraordinaire. Parce que c'est une musique qui est complètement planante, avec des rythmes complètement différents, mais qui vous emmène dans ce film qui est long, qui est lent, et qui est agréable comme une belle lecture de Balzac. Quoi. C'est quelque chose de... On respire, on vit, et la musique, elle est vraiment éclatante.
Bien.
Voilà, moi, j'adore.
Et pour terminer, votre réplique préférée culte. Oui. Alors là, on revient peut-être en France.
Ouais, alors là, on revient en France parce que c'est une réplique que je trouve vraiment actuelle, parce qu'on en rencontre à tous les coins de rue. C'est une réplique de Audiard, que j'adore, dit par Dino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et je trouve que ça, c'est vraiment d'actualité.
Voilà qui est dit.
Les cons, ça ose tout, Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Alors mon cher Jean, ben, pareil, on va se permettre de vous poser les mêmes questions. Oui. Donc dans un premier temps, vous allez nous donner votre film préféré, s'il vous plaît.
Oui, alors le film, je le donnerai qu'après. Parce que le fait d'écouter Salvatore évoquer la figure de De Sica,
oui,
et le voleur de bicyclette, pour moi, le voleur de bicyclette, c'est effectivement un immense film. Vittorio De Sica est mort. Peu de temps avant que l'on se rencontre, on devait se voir, je devais faire un entretien avec lui. De Sica, c'est vraiment un père pour moi, quoi. Je le perçois comme un père.
C'est fort.
Et c'est une relation extrêmement forte. J'ai écrit un bouquin sur lui, où je raconte des choses, notamment par exemple le fait que Robert Badinter était son témoin de mariage. Et dans le bouquin que j'ai écrit, j'ai reproduit une déclaration de quelques pages de Badinter évoquant ses liens avec De Sica, quoi, dont il était très proche.
D'accord.
Badinter aimait beaucoup le cinéma. Il a été le mari d'Anne Vernon. Enfin bon, on va encore dérailler et partir très loin. Bon, donc on va en venir au vrai film que j'amènerai avec moi. Parfois la question, c'est quel film amèneriez-vous
sur une île déserte.
Une île déserte.
Bon, ben c'est la question que je vous pose alors.
Voilà. Alors sur une île déserte, j'amènerai deux films. Donc Le voleur de bicyclette, ça ne pourra pas être un seul. Et ce sera un film de Fellini qui pour moi reste le plus grand. Alors évidemment, ça pourrait être 8,5, ça pourrait être La Dolce Vita. Finalement, ce sera à Marcord.
Ecco, a Marcord vuol dire che bisognerebbe ricordarsi ogni tanto. Ricordarsi in tutti i sensi, del bene e del male.
Bien.
Parce qu'il y a la mémoire, il y a le récit de l'enfance, le passé, qui vous
la nostalgie un peu, en quelque sorte.
La nostalgie, qui est une composante extrêmement présente dans ma façon de vivre. Ouais. Et puis, cette ville entièrement reconstituée en studio à Cinecittà. Quoi. En Italie, à Rome en particulier, il y a un très grand nombre de studios. Et j'en citerai au moins un deuxième, la De Paolis,
oui,
qui est un studio avec une histoire presque aussi riche que Cinecittà, De Paolis. Alors, une journée particulière, qui est entièrement tournée en studio, mis à part l'introduction qui est en décor réel, dans un véritable immeuble des années 30, le studio de tournage, c'est la De Paolis, qui est aussi en plein centre, qui a à peu près les mêmes dimensions, à peine plus petit que Cinecittà, et qui a abrité des tournages légendaires.
Alors, on revient à la fin de cette interview. On s'est arrêté sur la musique, en fait.
Oui, alors la musique, évidemment, quand on parle de cinéma italien, il n'est pas le seul. Hein. On aurait un peu tendance à focaliser sur ce personnage unique auquel Tornatore a rendu hommage dans un film éblouissant qui, moi, m'a fait pleurer. C'est Morricone. Ennio Morricone était d'abord une formation classique et une espèce d'angoisse d'être reconnu comme un musicien auteur de musique classique. Morricone rêvait d'être reconnu par ses pairs, par les musiciens qui ont écrit de la musique symphonique, qui ont écrit des opéras. Il aurait voulu être l'égal, dans le fond, des grands musiciens. Et d'une certaine façon, il l'a été. Et Tornatore arrive à rendre compte, arrive à faire sentir l'intensité musicale de Morricone. Même Petri, qui était un cinéaste de films policiers et de films politiques, peut-être davantage encore, s'appuyait toujours sur Morricone. Il a même fait une plaisanterie en lui proposant une autre musique, en lui disant « Oh, j'ai mis une magnifique musique, tu verras, elle est bien meilleure que la tienne. » Et puis finalement, il dit « Mais non, je suis en train de me moquer de toi. Aucune musique.
» N'a d'égal que les tiennes.
D'égal que les tiennes. Donc,
alors, on peut citer juste un film italien, parce qu'on pense évidemment, quand on pense à Ennio Morricone, on pense au film Mission, mais il a fait aussi d'autres films en Italie.
En Italie, moi, j'ai évidemment, il était une fois dans l'Ouest.
Ben voilà, qui a été vraiment la signature par excellence.
L'apparition de Claudia Cardinale, avec son petit chapeau et sa petite une voilette au début du film, moi je suis resté saisi.
Grand moment de cinéma.
Un grand moment de cinéma. Mmh. J'en ai eu les larmes qui venaient. Bon, enfin, on va pas.
Merci pour ce petit partage et on va finir avec une réplique.
Alors, la réplique,
Jean.
Moi, j'ai pensé, pour faire, être un peu plus léger, j'ai pensé au Fanfaron, ouais. Sur Passe, avec Gassman et Trintignant. Et au moment donné, Gassman envahit l'espace sonore de la voiture. Ils sont dans une Lancia,
Oui, ils sont en train de conduire.
En commettant des imprudences constantes. Et il évoque un certain nombre de gens qu'il connaît. Alors il dit Antonioni. Antonioni, voilà un grand cinéaste. Et il se moque d'Antonioni de façon délibérée. Quoi, hein. Et c'est jouissif, on peut dire ça. On peut dire. Trintignant fait un peu la moue. Quoi, tu vois.
L'aliénazione, comme nei film d'Antonioni, no? L'hai vista Eclisse?
Sì, è un film.
Io ci ho dormito, a bella pennichella. Bel regista, Antonioni.
Merci pour votre accueil.
C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on a appris plein de choses sur le cinéma italien. Merci. Je sais qu'on en apprendra encore plein, mais merci infiniment. Et donc, on rappelle une dernière fois le titre donc, de cette bande dessinée qui est sortie donc, le 29 octobre en 2025. Évidemment, toujours à disposition dans les librairies ou sur les sites que l'on connaît. Ça s'appelle donc « Un dragon en forme de nuage » dans la maison d'édition Fordis, qui est votre maison d'édition, Salvatore. Oui. À bientôt, messieurs, et merci infiniment.
Merci pour votre accueil.
Au revoir.